In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages. C'est le 162e numéro de l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et aujourd'hui, c'est dans le monde du paradoxe, de la logique et du syllogisme que je vous emmène. Ce pourrait être deux moines dans un monastère reculé au Moyen-Âge ou deux piliers de bistrot accoudés au comptoir depuis des heures à s'enfiler des ballons de blanc. En fait, les héros du nouvel album de Marc-Antoine Mathieu sont un scientifique et un philosophe qui parlent indéfiniment de l'infini. Et à la lecture, notre cerveau vrille littéralement. Tant l'intrication du propos et de sa mise en image percute notre compréhension. On croit avoir saisi, mais à la page suivante, une nouvelle perspective s'ouvre qui bouleverse le fragile échafaudage. Et c'est jouissif, parce que ce que nous donne à lire et à voir Marc-Antoine Mathieu, on voudrait le démonter, lui opposer une preuve imparable, mais cela nous échappe immédiatement. C'est donc un petit miracle que cet album, c'est donc un miracle que ce tout petit album. Bonjour Marc-Antoine Mathieu.
Bonjour.
Et vous revoilà dans le studio de Radio G, cette fois pour ce nouvel album « L'infiniment moyen et plus si infinité dans les limites finies d'une édition minimaliste ». Les germes de cet album, ils ont pris racine sur quel terreau?
Alors sur le terreau du dispositif, en fait. C'est-à-dire que bon, tous les livres sont des dispositifs, peut-être même sans doute toutes les œuvres d'art. Et au départ... L'infiniment moyen et plus si infinité, etc., n'était pas un livre, en fait. Au départ, c'était juste un petit dispositif que je m'étais imposé à moi-même, c'est-à-dire faire quelques pages, dessiner quelques petites pages, des micro-pages, des picots-cases, en fait, pour une exposition que j'envisage autour de l'infini. Et je m'étais dit, tiens, ce serait rigolo de faire 7-8 pages comme ça, à une taille toute petite, dans des immenses cadres, évidemment, et qui mettraient en scène deux personnes qui discutent sur l'infiniment grand, voire l'infiniment petit. Et donc j'ai commencé à faire ces 6-7 pages, le dialogue continue, des idées viennent supplémentaires, et je me retrouve à faire 12 pages, 15 pages, 20 pages, et puis l'esprit d'escalier... Continuellement, je me retrouve bientôt avec 30-40 pages. Et là, je me dis, mais je suis en train de faire un livre. Voilà. Donc, au départ, ce n'était pas du tout un livre qui était prévu.
Donc, ça veut dire que, dès le début, ça a été ce format. C'est-à-dire que le format de l'album, moi, je l'ai mesuré avant l'émission, 2,6 cm par 3,9 cm. Donc, autant dire que c'est petit. Donc, c'était ce format, dès le départ, la contrainte, dès le départ. Mais en commençant, vous avez commencé avec des outils appropriés ou alors vous avez commencé comme ça, un peu de manière un peu folle, en commençant à dessiner tout petit, mais et en vous rendant compte que peut-être progressivement il fallait se doter d'outils un peu particuliers.
Non, dès le départ, pour faire ces quelques pages qui au début n'étaient que quelques pages, c'est devenu après 90 pages, mais au départ, dès le départ, j'ai utilisé un compte-fil parce qu'il me semblait intéressant de réaliser vraiment à la taille d'un timbre-poste. Vous voyez, ce timbre-poste, c'est une image, mais des fois, c'est magnifique. Quand on regarde un timbre-poste avec une grosse loupe ou avec un compte-fil, on s'aperçoit que il peut y avoir, notamment dans les vieux timbres, gravés des choses, des paysages absolument magnifiques. Donc j'avais envie de me mettre dans cet exercice physique, arriver à cette performance de faire quelques pages absolument minuscules. Mais là où c'était intéressant, c'était que la loupe, le faire à la loupe et ensuite éventuellement le lire à la loupe, c'était un petit peu renvoyé, vous voyez, à ces scientifiques qui vont regarder dans l'infiniment petit avec un microscope ou même avec un microscope à effet tunnel, et puis les astrophysiciens qui regardent évidemment le cosmos, l'infiniment grand, avec un télescope. La loupe étant un petit peu le juste milieu, quoi.
Le milieu moyen.
Hein. Voilà.
On va dire les milieux moyens, avec une volonté, enfin, avec la volonté quand même de réhabiliter l'infiniment petit. Alors, ça paraît objectivement absurde. Enfin, réhabiliter, voilà, un concept de cette nature-là. Alors, qu'est-ce qu'il a par rapport à l'infiniment grand, finalement? Qu'est-ce qui manque à l'infiniment petit?
Oui, ce qui manque à l'infiniment petit, vous voyez, c'est le spectaculaire, c'est la fascination. Et on est dans une époque, justement, où la fascination marche à plein, vous voyez. C'est des grands spectacles, les tableaux dans les galeries sont de plus en plus grands, les écrans sont de plus en plus gigantesques, ça tremble de partout. Maintenant, il y a de l'odorama, vous voyez. On est dans une surenchère, en fait, spectaculaire. Et du coup, ça se passe aussi un peu en science, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'infiniment petit, là, on parle beaucoup moins, si vous voulez, de l'accélérateur de particules du CERN de Genève que des satellites qu'on envoie au loin pour aller filmer le grand cosmos. Vous voyez, on parle beaucoup plus des trous noirs et des géantes rouges et puis des extraterrestres qui sont très 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 loin, que de cet extraordinaire monde minuscule qui est sous nos pieds, sous cette table, sous mes ongles. Vous voyez.
Alors, tout de suite, moi j'ai fait un lien malgré tout en lisant cet album. Donc effectivement, le truc de fou, mais on y reviendra parce que les boucles, elles se construisent. Enfin, il y a des boucles dans cet album, entre autres la boucle de la loupe, on va y venir. Mais moi, j'ai ressenti une plus qu'une filiation d'ailleurs, une continuation du projet Deep It, Deep Me, où vous nous emmeniez déjà quelque part ailleurs. Et j'ai l'impression que vous avez continué la réflexion qu'il y avait dans Deep It et Deep Me sur la notion de taille, la notion de dimension, qui je suis, enfin, qu'est-ce que c'est que le tout petit. Est-ce que je me trompe là ?
Non, pas. Non, c'est vrai, c'est assez juste. C'est-à-dire que dans Deep Me et Deep It, mais également dans certains autres de mes albums où il y a une spirale aussi à un moment donné, vous voyez, il y a certainement une espèce de propension à vouloir rejoindre les deux bouts ou à vouloir boucler la boucle, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que dans Deep Me et Deep It, il y a aussi cette notion d'infiniment grand.
Moi, j'ai vu de l'infiniment petit.
Hein, et bien sûr, de l'infiniment petit.
Oui.
Il y a les deux.
C'est
ce que je veux dire. Dans Deep Me et Deep It, il y a effectivement les deux. Et on s'y attend d'ailleurs pas forcément. Voilà. Mais alors là, évidemment, dans l'infiniment moyen et plus infinité, il y a aussi ça, mais complètement sur un autre registre. On n'est plus du tout dans le même dessin, on n'est plus non plus du tout dans le même registre, on va dire, dramatique, quoi, dramaturgique.
Oui, ah bah, on est. Moi, je dirais que le climat, j'y ai pensé, mais c'est générationnel, hein, ça m'appartient. J'ai pensé au sketch de Raymond Devos. Voilà. Ça attaque comme un sketch de Raymond Devos. Je pensais au sketch, par exemple, sur le rond-point, monsieur qui rentre sur un rond-point, et puis il y a des sens interdits partout, il ne peut pas sortir. Et là, ces deux personnages qui discutent, ils sont, bien sûr, on pense à Beckett, quoi. Enfin, donc ils sont en train de discuter, sauf que ça commence comme un sketch de Raymond Devos, et puis on se dit, mais non, c'est quand même assez sérieux leur affaire. Hein.
Oui, mais un peu comme Raymond Devos, hein, si on écoute bien Raymond Devos, de temps en temps, c'est sérieux. De la même manière que Beckett, il y a comme ça des auteurs, si vous voulez, des écrivains, des artistes qui, sous couvert de faire quelque chose d'absurde ou de décalé, voire drôle, disent des trucs profonds. Mais ça, c'est le grand art de faire passer des choses profondes sans le dire, voyez, sans le clamer, sans justement être dans la fascination, dans le discours. Vous voyez. Là, c'est... Et donc, si j'arrive comme ça à faire passer deux, trois petites idées qui ont du sens, mais d'une manière douce et agréable, avec le rire, bon, ça me va très bien.
Alors, par contre, je me suis demandé si vous ne tordiez pas, dès le début, si vous finalement, coupiez pas court au débat dès le début, parce que dès la page 7, donc toujours avec la loupe, hein, bien évidemment, c'est que il y a la discussion a commencé, et il y a le physicien qui répond l'infini, c'est l'abîme. Voilà, dès la page 7, donc on peut se dire, ben voilà,
la messe est dite.
La messe est dite, quoi, la boucle est bouclée, pourquoi faire 80 pages après, quoi.
Et oui. Ben oui, parce qu'évidemment, ce scientifique et ce philosophe vont parler de tout, presque, sauf de l'infini. Bien sûr, ils vont toujours parler de l'infini, ça va revenir en permanence, ils vont recreuser le sujet. Mais finalement, au bout du compte, ce qui sera dit, c'est pas forcément quelque chose d'essentiel sur l'infini, ce sera quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ben, il est un peu à trouver en chacun de nous. Encore une fois, le livre est un dispositif et c'est à chaque lecteur d'aller regarder dans les recoins, et alors des minuscules recoins, pour le coup, ce qu'il a envie d'y trouver.
Et parce que, bon, alors on retrouve De Vos, Raymond De Vos, dans cette phrase, un monde sans infini serait un monde pas fini. Enfin, et quand nous, lecteurs, on lit ça, on se dit, bon, un monde sans infini, ce sera un monde pas fini, qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous obligez à faire vraiment à plonger dans la réflexion. Enfin, c'est vraiment intense, quoi.
Je ne m'y oblige pas. C'est-à-dire que ça, c'est des phrases qui viennent toutes seules. C'est-à-dire que c'est quand même un livre qui a été fait sur le mode complètement improvisé. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, au départ, je voulais faire que 7 pages. C'est devenu 88 pages, en fait, au long cours. Comme si j'avais pris, vous voyez, une petite barque au début, puis bon, je vais aller canoter comme ça sur le lac, et puis, étrangement, le lac devient une petite mer, puis une petite mer intérieure, puis ça devient un océan, vous voyez, vous n'avez pas fait gaffe. Et c'est souvent ça, en fait, quand on crée des choses, on s'embarque, justement, dans une aventure, et qui, ensuite, vous embarque elle-même, quoi. Et c'est vraiment le cas de l'infiniment moyen, ouais, et plus si infinité.
Vous arrivez à développer des idées et vous justifiez la bande dessinée parce que les idées que vous développez, vous les dessinez aussi. Il y a par exemple le surgissement de la bibliothèque dans laquelle les personnages se promènent, qui déjà, elle, semble infinie. On prend du champ. Ils montent sur des échelles, sur des rayonnages, et en fait, les dos de livres, c'est des portes qui ouvrent sur d'autres portes. Enfin, vous dessinez l'infini et vous nous permettez de comprendre, finalement, à un moment donné, en fait, l'infini et l'infini petit, ça existe.
Oui, ça existe, la preuve, on l'a dans les mains. Oui. C'est-à-dire que, non, mais ça, c'était bien aussi de pousser l'aventure, de pousser aussi le sel, on va dire, de l'histoire à faire un décor absolument incroyable, très compliqué, sur un format de timbre-poste. Et quoi de mieux comme décor, quoi de plus beau comme décor que de faire une bibliothèque de Babel, la bibliothèque de Borges, voilà. Voyez, la bibliothèque infinie dont on comprend à un moment donné qu'effectivement, elle n'en finit pas. Mm-hmm. Voilà, donc elle crève l'écran d'une certaine manière, mais à travers des cases minuscules de bandes dessinées. Ça, je me suis bien amusé. Ouais.
Oui, effectivement, on est obligé. Alors, on peut avoir, il y a les deux références. Hein. Il y a la bibliothèque du nom de la rose du film de Jean-Jacques Hano, qui est déjà pas loin de la bibliothèque de Babel. Hein, on est, et puis, bien évidemment, c'est... Alors, moi, je recommande toujours la lecture de ce texte de Borges, parce qu'il est, extraordinaire. Et il nous plonge dans les mêmes abîmes de réflexion, parce qu'on est toujours à chercher, avec la bibliothèque de Babel de Borges, à se dire... Est-ce qu'il y a une faille quelque part dans son raisonnement? Est-ce que, et comme avec votre livre, on se dit où est-ce que ça achoppe, quoi? Et puis finalement, vous nous piégez à tous les coups. Et il y a quand même, dans cette réflexion de ces deux personnages, alors effectivement, la conversation rebondit tout le temps. C'est vraiment, pour moi, c'était presque une conversation de café, quoi. Il y a un moment, une ouverture, et l'ouverture que vous donnez dans cette réflexion sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, pour vous, ben, l'alternative, c'est finalement l'art.
Oui, hein, c'est... l'alternative, vous voulez dire entre dans le questionnement voilà, entre les deux
oui, oui, dans le questionnement.
Oui, bah, l'art, de toute façon, l'art, effectivement, c'est l'échappatoire idéal quand on veut pas... quand on ne veut pas aller jusqu'au bout, et comme on ne peut pas aller jusqu'au bout, comme on ne pourra jamais aller jusqu'au bout, l'art est une bonne manière de prendre la tangente en ne cédant rien, en fait, à la vie, en ne cédant rien au faire, au savoir-faire, et à, nous, à la révélation de nous-mêmes, mais tout en quittant en fait, la prétention de vouloir soit avoir raison, soit avoir découvert des choses, soit pouvoir discourir sur le monde de manière docte, voyez, ou savante. C'est sans doute ça, oui, l'art. Mmh. Et alors là, les deux scientifiques, enfin, le scientifique et le philosophe font de l'art sans le savoir, en fait. Hein.
Ouais. À quel niveau?
Bah, parce qu'en fait, ils créent, c'est leur dialogue qui crée. C'est-à-dire, leur dialogue est un écosystème, finalement, c'est-à-dire qu'ils discutent ensemble. Si le scientifique pensait tout seul et parlait tout seul, ce serait certainement un peu sec et peut-être un peu vain. Et si le philosophe discutait avec lui-même tout le temps, ce serait sans doute un peu la même chose. Mais le fait qu'ils discutent font qu'ils font ressortir des choses tout à fait essentielles, comme par exemple, ils découvrent tous les deux que ce qu'ils disent d'intéressant, c'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Ils découvrent une vérité qui a été un peu planquée sous le tapis, que quand on ne veut pas dire des choses justes, il peut arriver, complètement par hasard, qu'on dise des choses essentielles, et ça, on ne l'avait pas prévu, on ne l'avait pas recherché.
La sérendipité.
La sérendipité. Voilà. Et puis, c'est comme ça, souvent, que le philosophe découvre certaines choses, certaines portes d'ouverture. C'est comme ça aussi que le scientifique et l'artiste parfois trouvent des petits bijoux. En fait, c'est simplement en ayant lâché un peu prise et en étant à l'écoute ou de l'autre ou du monde.
On va faire une première pause musicale.
C'est pas vraiment ce qui m'emballe en ce moment. Ça dépend pas mal, ça dépend seulement si c'est chiant. Vaut mieux arrêter juste avant. On en a fini, on en a loupé tellement. Et en même temps, pas tant, c'est plutôt triste que marrant. Drôle et en même temps, pas tant, c'est plutôt triste que marrant. Je sais bien qu'il y a qu'une vie, je vois bien que c'est pas clair. Après, qu'est-ce qui fait envie à part une grande bière bien fraîche? N'avancez pas trop, je sais pas si ça va péter. Ça serait bien normal, ça serait pas dommage. Bah ouais, drôler en même temps, pas tant, c'est plutôt triste que marrant. Drôler en même temps, pas tant, c'est plutôt triste que marrant. Drôler en même temps, pas tant, c'est plutôt triste que marrant. Drôler en même temps, pas tant, c'est plutôt triste que marrant.
Écoutez Nerloff, accompagné au piano par Norman. Vous écoutez Entre les pages, et ce n'est que sur Radio G aujourd'hui. Je suis avec Marc-Antoine Mathieu et nous parlons de son nouvel album, L'infiniment moyen et plus si infinité, dans les limites finies d'une édition d'une é... éditions minimalistes, oui, c'est ça, paru aux éditions Delcourt. Vous revendiquez de l'école oubapienne, l'équivalent de l'Oulipo, mais pour la bande dessinée. Je pense que c'est important de rappeler un peu ce que ça signifie, l'école l'Oubapo, pour la bande dessinée. Qu'est-ce que ça signifie, cette école-là, enfin, ce courant-là?
Alors, c'est un peu dans la lignée de l'Oulipo, hein, l'ouvroir de littérature potentielle. Il y a aussi l'Oumupo, l'Oussipo, l'ouvroir de cinéma potentiel. Et il y a l'Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle qui a été énormément abondé avec les amis de l'association. Alors, moi, je ne me revendique pas nécessairement...
Les amis de l'association, la maison d'édition, l'association.
L'association, ouais. Oui. Mm-hmm. Jean-Christophe Menu et puis ses acolytes. Alors moi, je ne me revendique pas plus que ça de l'Oubapo. Par contre, j'ai été par eux nommé muse. Donc je suis muse de l'Oubapo. J'en suis quand même très, très fier. Mais voilà, effectivement, je, comme j'ai toujours aimé jouer un peu avec les codes, avec le médium, parfois même je suis amusé à faire purement de l'exercice de style, hein, ça m'est déjà aussi arrivé. Mmh. Donc voilà, effectivement, on est un peu cousins.
Dans l'exercice de style, il y en avait un qui était assez exemplaire, qui était 3 secondes, l'album 3 secondes, qui jouait sur les reflets, l'infini d'ailleurs, on peut y revenir, hein, l'infini des reflets. Dans l'esprit oubapien, qu'est-ce qui donne la contrainte? C'est l'auteur qui se donne lui-même la contrainte?
En général, oui. Ouais. Oui, oui. Ou alors, ils s'inventent des contraintes en groupe. Mmh. Chez les Oubapiens, chez les Oulipiens, effectivement, l'idée, ce qui prime, c'est de trouver une idée qui instaure en fait un cadre, un dispositif propre à pousser les limites du médium dans ces derniers retranchements, et évidemment de pousser aussi l'auteur, ou le dessinateur, ou le musicien, ou le cinéaste, etc., à trouver des voies de sortie. Vous voyez, donc ça pousse on pousse les limites du moyen d'expression. Voilà. Donc c'est très intéressant. Alors parfois c'est de l'exercice de style pur, mais ces exercices de style qui prennent l'apparence d'un jeu finissent parfois par donner des petits bijoux, quoi. Vraiment des choses magnifiques.
Sachant que la contrainte qu'on se donne ne nuit pas à l'histoire qu'on raconte, au contraire, elle permet de raconter une histoire.
Oui, elle le permet, bah, comme tout dispositif, elle le permet, en même temps, elle tord les manières classiques de raconter ou de créer. Vous voyez, en créant un nouveau dispositif à contrainte, vous êtes obligé de sortir de vos sentiers battus, vous sortez de votre zone de confort, en quelque sorte. Mmh. Mais tout artiste fait ça, en fait. Tout artiste un peu exigeant aime à sortir de son sentier, de son chemin ou de son autoroute, vous voyez. Il va prendre des chemins de traverse, il va les visiter, il va les voir ailleurs. Et d'emblée, c'est d'une certaine manière des exercices d'ouvroir d'art potentiel.
Mmh. Alors, le gauchissement, la vrille, le gauchissement, parce qu'on peut parler de ça, donc il y en a plusieurs, hein, dans cet album. Je pense il y en a plusieurs, hein. Il y a déjà un ciel étoilé, donc on voit un ciel étoilé. Et puis en fait, en réalité, par un effet de dézoom, ce ciel étoilé, ce n'est que la surface noire d'une tasse de café. Donc on est pris dans cette histoire et on recule et on se dit, ah oui, on était parti de cet endroit-là, on revient à la tasse de café, ou bien c'est la page 10, je pense que c'est le philosophe qui s'exprime, et en fait il est dessiné dans le reflet des lunettes du scientifique. Donc on a ces mouvements de bascule, ou alors bien évidemment, alors celui qui est assez extraordinaire, c'est il y a une forme de logorée à un moment donné. Le texte envahit la page complètement. Alors, ça prend de la place, de plus en plus de place. Alors, c'est dingue. Mais page suivante, tout d'un coup, le texte qui a pris toute la place, surgit une loupe qui agrandit le texte. Et ce qui est fou, c'est que nous-mêmes sommes en train de lire avec une loupe le texte qu'une loupe est en train d'agrandir. Enfin...
Oui, il y a le phénomène loupe, alors L-O-U-P-E et loupe, L-O-O-P-E, oui. En anglais. Mais ça, je ne l'ai pas du tout fait exprès. J'en suis aperçu après que j'ai dit, tiens, c'est marrant, j'ai fait un looping. Et en prenant comme objet matriciel, on va dire, la loupe. Alors ça, c'est très, très rigolo. Il y a des coïncidences comme ça, c'est marrant. Mais c'est vrai que là encore, c'est une idée qui est venue toute seule, hein, qui est venue un petit peu... un peu en faisant des gammes, on va dire, et cette idée d'inflation, vous voyez, de logorée, comme vous dites, inflationniste, elle était très intéressante parce que c'est toujours le même dialogue, mais à chaque fois augmenté, avec des adjectifs, oui. Avec des trucs. Alors, c'est-à-dire qu'ils disent toujours la même chose, mais de manière complètement inflationniste. Oui. Donc c'est totalement absurde, c'est totalement jouissif à faire. Alors, j'espère que ça l'est aussi à la lecture, mais en tous les cas, il fallait ça parce que cette inflation n'en finit pas, évidemment, puisque c'est exactement comme le Big Bang ou le Big Crunch, peut-être, qui aura lieu un jour avec le cosmos. Une fois qu'il y a inflation, ça n'en finit pas. Normalement, le phénomène inflationniste n'en finit pas. Et du coup, là, le lecteur se retrouve avec une limite de lecture. C'est-à-dire qu'il y a un horizon de lecture. Il n'ira pas au-delà. Mmh. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi de le faire vivre un peu physiquement, aussi mentalement, au lecteur. On ne peut pas parler de l'infini sans, à un moment donné, s'y coller, vous voyez, se le prendre... dans la figure en se disant « Ah là, non, j'atteins mes limites. »
Oui, oui. D'où deux choses. Vous venez de dire, effectivement, il y a un moment donné, vous y mettez vous-même des limites. C'est-à-dire que ce texte qui a saturé la page complètement, finalement, à nouveau, phénomène de dézoom, et on se rend compte que ce texte, c'est un tableau dans une salle d'exposition, et on a nous tous de tout petits scientifiques qui sont au pied de ce tableau et donc qui glosent. Enfin, il y a un truc qui continue de c'est infernal, quoi. Bah, intellectuellement, c'est infernal.
Oui, l'infini est infernal.
Oui.
Je confirme, mon cher Luc. Non, ça n'en finira pas. Et même à la fin du livre, le lecteur s'apercevra que ça n'en finit toujours pas, puisque l'infini se perpétue ailleurs, dans une autre dimension.
Alors, on en vient à une double, pas double problématique, mais vous en avez parlé au début. Ça a commencé sur le format de la BD, de l'album. Ça me fait rire, moi, de parler d'un album. Quand je le prends comme ça dans mes mains, je me dis, tiens, c'est un album. Bon, c'est un côté, là aussi, surréaliste. Vous l'avez dessiné au compte-fil. Objectivement, physiquement, vous avez dû souffrir.
Oui, c'est vrai. Oui. Au début, si j'avais su que... Je me suis fait d'ailleurs très mal au bras. Mon bras s'est rappelé à moi, en fait, à force de tenir le compte-fil. Quand on fait ce genre de choses et qu'on est parti, vous voyez, en improvisation, c'est proche un peu des fois du délire, vous voyez, là, c'est la pensée actrice, et le corps suit, vous voyez, le corps n'a pas le droit de s'arrêter, c'est la pensée qui guide tout, qui est locomotrice, et du coup, mon bras, il suivait pendant des mois, et alors ce qui est très étonnant, c'est que quand j'ai fini le livre, là, un soir, mon bras s'est bloqué, quoi. Il a dit là, stop. Et voilà, pendant 2-3 mois, j'ai dû faire très très attention. J'ai dû choyer mon bras gauche. Lui qui a tenu ce compte-fil, là, comme ça, avec une espèce de tension au niveau des tendons. Vous voyez, je m'en apercevais pas du tout. Tout à mon affaire d'infini, mon bras m'a dit, mais tu sais, tu n'es qu'un dessinateur, tu n'es qu'un auteur, et tu es fini,
oui,
pas infini.
Il y a des limites finies. Il y a des limites finies.
Exactement.
Et alors, pour expliquer, on parle de compte-fil. Le compte-fil, c'est une loupe, hein, qui est posée sur un petit support. Tout bonnement, qui servait beaucoup aux photographes. Enfin, c'est un contrôle de netteté pour les photographes du temps où vous faisiez de la photographie argentique.
À l'époque, des négatifs.
Des négatifs, ouais. Voilà. On contrôlait la netteté avec ça. Donc, vous avez ça. Mais il a fallu, parce qu'il faut vraiment imaginer l'album, quoi. C'est vraiment tout petit. C'est, je l'ai dit, hein, 2,6, 3,9. Et dans cette superficie-là, il y a des cases.
Oui.
Et il y en a même plusieurs des cases, hein. Il y en a même beaucoup. Sur certaines pages, il y a vraiment beaucoup de cases. Vous avez dû inventer des outils pour pouvoir dessiner, c'est du noir et blanc, c'est de langue de Chine, mais pour pouvoir dessiner ou même pour pouvoir écrire le texte, je parlais de ce texte inflationniste, vous avez inventé, enfin, créé des outils spécifiques pour pouvoir dessiner ça ?
Oui, alors je suis resté sur les outils vraiment traditionnels, hein, comme vous dites, c'est-à-dire encre de Chine, porte-plume et puis papier. Mais bon, il a fallu que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin. Vous voyez, là encore, on est dans le labo du chercheur. Et c'est toujours intéressant et on se surprend à faire une petite cuisine. Alors j'ai commencé à travailler sur la ductilité de l'encre, vous voyez, je mettais de l'eau distillée pour avoir une encre un petit peu plus fluide, qui convienne à ma plume que j'aiguisais, de manière à avoir une plume encore plus pointue. Alors aiguiser une plume, c'est pas facile, vous voyez, parce que c'est fendu au milieu, donc il faut l'aiguiser exactement de la même manière des deux côtés de la fente. Enfin, bon, je me suis intéressé à ça. Pareil au niveau du papier. Oui. Il y a des papiers, je me suis aperçu qu'il y avait des papiers où il y avait des microfibres vraisemblablement un peu plastiques ou un peu polymères, parce que sur certaines toutes petites détails, vous voyez, l'encre glissait dessus et s'imprégnait pas, alors que sur l'encre vraiment l'encre se pose dessus et reste dessus. Des fois, elle glissait, vous voyez, mais là, je parle de ça, c'est des détails au demi-millimètre, quoi. C'est intéressant. J'ai découvert tout un monde, en fait.
Oui.
Un monde que j'avais depuis 40 ans devant les yeux, c'est-à-dire de l'encre de Chine, une plume, du papier. Mmh. Mais là, je l'ai découvert justement dans ses micro-éléments, dans sa micro-facture.
Mmh.
C'est passionnant.
Vous nous avez dit, ça a commencé comme ça, j'ai fait des premiers essais. Donc, vous avez un pot d'encre de Chine, une plume, une feuille de papier. Les surprises de la réaction de ces différents éléments. Parce qu'effectivement, on le sait nous-mêmes, quand on utilise certains mauvais papiers, ça bavouille partout, enfin, et on écrit gros, alors j'imagine quand on écrit vraiment petit. Ou alors, ils sont révélés au fur et à mesure de l'avancée, tout d'un coup, il y a un accident qui fait qu'on se dit « Ah ben oui, ce problème-là, il va falloir que je le résolve. » Tous les problèmes sont apparus dès le début ou alors ils sont apparus en cours de route ?
Oh, ils sont apparus quand même plutôt au début.
Ouais.
C'est-à-dire que passé les 10 premières pages, je voyais déjà un peu la limite de l'aventure. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais pris le bon format dès le départ, heureusement. Non, mais le format, les planches sont au format 21 mm par 31 mm, donc c'est vraiment le format timbre-poste. Plus petit, ça aurait été, je pense, beaucoup plus compliqué. J'espère qu'un jour quelqu'un relèvera le gant. Et puis plus grand, bon, c'était moins, ça aurait été petit, mais sans être vraiment minuscule.
Donc, oui.
Il y avait comme ça une taille qu'il fallait trouver, et j'ai eu l'intuition de le trouver dès le début. En fait, en tous les cas, c'est une taille qui me convenait très bien.
Mmh. Sachant que pour vous, ça a été une épreuve physique, parce que vous vous êtes pris à votre propre piège, une idée qui se continue et qui finalement qu'on décide qu'il faut faire aboutir. Voilà. Pour le lecteur, c'est une épreuve. Moi, je l'ai vécu, hein, cette épreuve. Donc, j'ai dû lire l'album 3 fois, je pense. Hein. Une première fois pour le lire. Mais comme moi, je porte des lunettes à verre progressif, chaque page que je tournais, il fallait que j'adapte, retrouve la bonne distance de la loupe. Ça veut dire qu'on lit 4-5 pages. Et au bout de 5 pages, on est fatigué parce qu'on n'y arrive pas. C'est pas possible, hein, physiquement. Donc, vous nous avez fait vivre la même épreuve que vous avez vécue. Mais de l'autre côté, bien évidemment, je trouve que en termes de sens, moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'un livre qui va traiter du quantique, parce qu'on est dans la physique quantique, donc qui est difficile à lire, mais qui est une bande dessinée qui est supposée être facile à lire. Et on retourne vers la difficulté parce que vous nous donnez un objet qui est effectivement difficile à lire.
Oui, oui, et cette difficulté, elle est différente selon les lecteurs aussi. C'est ça ce dont je me suis aperçu. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est difficile, mais sans plus. Il y a des gens pour qui c'est très difficile. J'ai même une personne qui m'a dit « j'ai pas réussi à le lire ».
Mmh.
Donc ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, on est quand même face à un objet qui est banal, mais il y a tellement de réactions, tellement de différences de point de vue sur la faculté de se l'approprier, ça, c'est assez intéressant. Mmh. Alors après, il y a, au-delà de la difficulté, la performance de l'avoir réalisé et de la performance de le lire, il y a aussi la performance de le fabriquer.
Oui.
Là, les éditions Delcourt, oui. Chapeau. Enfin, oui. Petite parenthèse, une pensée émue pour l'équipe de fabrication des éditions Delcourt, qui est vraiment la Dream Team, vous voyez, qui fait des choses formidables. Parce qu'ils ont relevé le gant, fallait pas avoir peur, quoi, d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi la performance de le vendre. C'est-à-dire, pour les libraires, bon, ça doit pas être facile. Donc, j'ai une pensée aussi pour les libraires. Et les bibliothécaires, évidemment.
Oui. Oui, alors sachant que l'objet se présente de manière très magnifique, enfin moi je trouve ça magnifique, d'ailleurs on pourrait réfléchir à la forme de l'objet, c'est en fait format cassette vidéo, cassette VHS, hein, alors là aussi ça parle aux vieux, cassette VHS, et donc une cassette VHS dont la couverture est percée, il y a la loupe qui est juste dans l'axe du trou de la couverture et qui tombe pile sur le livre qui est incrusté, enfin voilà. Et donc c'est un objet assez surprenant. Il est beaucoup plus facile à ranger comme ça dans une bibliothèque, hein. Vraiment, oui. Objectivement, beaucoup plus. Cependant, si moi, ma bibliothèque était, les livres de ma bibliothèque étaient à cette dimension-là, aujourd'hui elle occupe 3 mètres cubes, elle n'en ferait plus que 0,09 mètres cubes, donc je gagnerais beaucoup.
Oui, ce serait bien, ça s'appellerait une bibliothèque décroissante.
Voilà, exactement. Un peu de politique écologique, ça fait pas trop de mal. Effectivement, les éditions Delcourt, elles sont... Enfin, moi j'imagine, votre éditeur, vous arrivez avec ce projet, ils doivent dire, il doit y avoir des brainstorming pour se dire, non, il faut qu'on le calme, là, il faut qu'on l'arrête, le Marc-Antoine Mathieu.
Oui, ouais, il voit m'arriver de loin, et là, il y en a qui se plantent derrière les poteaux. Non, non, mais en fait, je ne suis pas venu avec un projet, je suis venu un peu la queue basse en disant, voilà, j'ai déjà fait 50 pages d'un livre, ça continue, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire? Enfin, vous voyez, c'était pas du tout sûr, quoi. Ouais. Non, mais c'est eux qui m'ont dit, non, c'est une aventure, c'est bien. Oui, la création, là, elle est partagée. C'est-à-dire que ça arrive des fois qu'un auteur et un éditeur, et puis les équipes de l'édition, s'embarquent dans une aventure commune. Et là, c'en est une. Parce que, au-delà, encore une fois, au-delà de dessiner et puis d'inventer une histoire pareille, il y a l'invention de l'objet qui est extrêmement importante dans un cas comme ça.
Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale. Thank you. venez d'écouter Arnaud Fournier qui a joué New York Belle Île. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et mon invité du jour est Marc-Antoine Mathieu. Alors avant de passer à regarder un peu ce qu'il nous a apporté, parce que je lui ai donné à moi de donner des contraintes. Alors je ne sais pas en radio comment ça peut s'appeler, mais à moi de donner des contraintes. Dernier point sur cet album, c'est un album particulier, donc il y a des contraintes. Comment il est abordé du côté fiscal, du côté du prix, enfin comment...
Oui, la fabrication, c'est vrai, comment faire pour qu'un livre comme ça soit vendable?
Oui.
Et bon, alors merci les Chinois, parce qu'ils arrivent à faire des objets complètement incroyables à pas trop cher. Bon, faut le dire de temps en temps, même si c'est pas politiquement trop correct aujourd'hui avec le scandale Chine. Ce qui était assez rigolo, c'est qu'on en discutait avec Étienne Davodeau un jour en voiture, comme ça, il me dit, parce qu'en fait, il y avait un problème de fiscalité au niveau du livre lui-même, parce que vous savez que le livre en France, c'est la TVA est à 5,5.
Mm-hmm.
Mais là, comme il y a une loupe, si vous voulez, c'est plus 5,5. C'est-à-dire, le fiscaliste, il dit, c'est plus vraiment un livre, donc c'est pas la même TVA. Alors, on a envie de lui dire, attendez, la loupe, elle est là au même titre que la couverture ou carton, il n'y a rien d'écrit dessus, il faut bien une couverture pour qu'un livre puisse être lu. De la même manière, ici, il faut une loupe. Ah oui, mais non, la loupe, c'est une autre TVA. Enfin bon, bref, la TVA de ce livre-là. Alors voilà, alors avec Étienne Davodeau, on se disait, mais est-ce que c'est vraiment un livre ou pas un livre? Voilà, il a un statut comme ça, un petit peu hybride.
Oui, oui.
Lui aussi, encore une fois, ce livre-là est à la limite.
Oui. Bon. Alors, je vous ai demandé de venir parce que je vous ai invité plusieurs fois, à plusieurs reprises dans cette émission, non pas par cuistrerie ou par je sais quelle, mais parce que je trouve que votre démarche artistique m'a toujours interpellé. Enfin, il y a quelque chose dans votre travail il y a une exigence, voilà, qui m'interpelle. Et ce livre était une bonne raison de vous inviter pour qu'on aborde plusieurs questions. Et là, je vous ai demandé de venir avec des livres. Voilà, à l'aveugle, moi je ne sais pas, je ne les connais pas, enfin je ne savais pas avec quel livre vous veniez, et j'aurais aimé que vous nous les présentiez parce que c'est une autre manière de vous connaître par qu'est-ce qui est dans vos bibliothèques. Je vois moi des livres qui sont sur la table, des livres qui ont été lus, qui ont été de toute évidence lus parce qu'ils sont écornés, parce qu'ils ont cette couleur un peu jaunie qui fait qu'ils ont été dans une bibliothèque. Alors, on va commencer par quoi? Vous nous présentez quoi d'abord?
Alors, je vais commencer forcément par Kafka.
Oh, ça m'étonne.
Ah, c'est logique, c'est le grand Kafka, l'incommensurable, l'infini Kafka. Et alors, c'est Le Château. Alors, pourquoi je l'ai amené? Parce que c'est très contextuel. C'est-à-dire qu'il se trouve que je l'avais déjà lu, évidemment, il y a longtemps, mais je l'ai relu là. On l'a relu avec ma compagne depuis maintenant un an. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on n'arrive pas à le finir. Alors c'est très très intéressant parce que comme chacun sait, comme
ceux qui l'ont
forcément, mais Le Château, en fait, c'est un livre qui n'est pas fini, c'est-à-dire que Kafka s'est arrêté au milieu d'un chapitre, et voilà. Donc, et à la relecture, alors on se le lit à voix haute, donc c'est très intéressant parce qu'on est dans la langue de Kafka, on est dans la chair de sa littérature, c'est passionnant, mais on n'arrive absolument pas à le finir. Plus on s'approche de la fin, et plus on le lit lentement, et plus on lit par petites bribes minuscules. Donc c'est à la fois un hommage magnifique à Kafka qu'on lui rend, et puis en même temps un deuil, évidemment, à l'infini.
Oui.
Le Château, ouais, chef-d'œuvre absolu, évidemment.
Mmh. Mmh.
Mmh. Alors, qu'est-ce que j'ai amené d'autre? J'ai amené, oui, quatre livres, vous m'avez demandé, je me suis restreint à quatre. Hein.
Oui.
Mais bon, c'est cruel hein, comme de demander ça quand même.
C'est cruel, mais...
seulement. Mais... Alors, bon, mais j'ai pris...
On terminera par les livres que vous n'avez pas pu apporter.
Ah, ok, voilà. D'accord. Okay. Hein? Bon, alors ça peut être, l'émission peut être quasi
très longue.
Finie, du coup, ouais. Bon, alors Raymond Roussel, Locus Solus. Alors ça, c'est un livre que j'ai découvert complètement sur le tard. Et c'est un livre, c'est inexplicable. Il faut faire l'expérience de le lire. C'est un bijou, c'est merveilleux. On manque de superlatif. Raymond Roussel, derrière ce nom complètement banal, se cache un auteur extraordinaire. Vous lisez ça, vous n'êtes pas pareil après, quoi, c'est clair. Et je me suis aperçu qu'on est comme ça un club de lecteurs. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a ceux qui ont lu Locus Solus et puis ceux qui ne l'ont pas lu. Vous voyez, c'est très étrange. Il y a comme ça des auteurs qui font une frontière, mais une frontière, pas une frontière méchante, hein, une frontière toute prête à être franchie. Oui. Évidemment, ce n'est pas un gros fleuve, c'est juste une petite rivière avec un gué. Et vous pouvez voilà, passer le gué, Locus Solus, et vous êtes dans un monde absolument extraordinaire.
La confrérie, on intègre la confrérie.
Oui, c'est ça un peu. Alors, Le savoir tragique de Santiago Espinosa. Alors, un jeune philosophe, il n'est plus très jeune, hein, il a quasiment 40 ans maintenant, mais c'est, je crois, mon plus récent livre un peu à caractère, on va dire, philosophique que j'ai lu dernièrement. Et c'est une petite splendeur. C'est, vous voyez, c'est pas épais, mais ça résume, si vous voulez, une pensée à laquelle je suis très attaché. C'est-à-dire, c'est la lignée de pensée qui, on pourrait dire, qui démarre évidemment avec les tragiques, c'est-à-dire Eschyle, vous voyez, les Grecs tragiques, et puis qui se prolonge avec Nietzsche, Spinoza, et puis plus récemment Clément Rosset. Mmh. Oui. D'ailleurs, dont Santiago Espinoza a été un peu l'élève. Mmh. Et c'est un très beau livre parce qu'il remet le tragique au centre de la pièce, on va dire. C'est-à-dire que le tragique n'est pas tragique au sens où on le conçoit aujourd'hui, c'est pas la tragédie, c'est pas dramatique, vous voyez, c'est le tragique. Il faut que le tragique puisse être vraiment visité jusqu'au bout pour qu'il devienne un terrain de joie. C'est un peu son credo. Un tragique d'ailleurs auquel Camus aurait pu souscrire. C'est-à-dire avec son Sisyphe, vous voyez, Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux quand il redescend de la montagne. Et bien là, on est un petit peu sur cette trace-là. Et c'est très, très beau parce que, alors à travers beaucoup d'exemples et avec une réflexion très belle et surtout très, très bien écrite, c'est une langue magnifique là, qu'il emploie, Espinosa, il nous fait sentir que le tragique, si on le dépasse, si on arrive à le voir en face, on peut le dépasser. Et on peut en nourrir un nouveau courage pour tenir face au tragique.
Alors, c'est fou ce nom, Espinosa.
Oui, c'est complètement incroyable.
C'est quand même impressionnant.
Il y a une généalogie à la fois nominative et puis dans la pensée. Ouais, c'est tout à fait étonnant. Mais c'est un livre très, 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 très fort. Voilà, et alors le dernier, honneur à la bande dessinée, évidemment, il fallait que je lise un livre de bande dessinée, sinon ça aurait été, on m'aurait traité de fou. et c'est Francis Masse, un auteur qui est tombé, je pense, quasiment dans l'oubli. J'en parle souvent et tout le monde me regarde un peu avec des yeux ronds. Et ce livre-là, on m'appelle l'Avalanche, réédité à l'association. En 2007, un livre extraordinaire. Alors pareil, complètement indescriptible. Hein. C'est un peu comme si vous essayiez des fois de raconter un film de Terry Gilliam, ou un peu de temps, quoi. Ça va être un peu long parce que on est dans un monde en fait. Il y a des auteurs comme ça qui inventent des mondes. Et Francis Masse en est un. Et moi, je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'a soufflé à l'oreille, qui m'a soufflé à l'esprit que la bande dessinée était un champ d'exploration magnifique et qu'il y avait beaucoup d'espace de liberté. C'est lui qui m'a révélé ça alors que j'étais ado. Je faisais déjà de la bande dessinée avant. Mais vous voyez, à un moment donné, on se dit, bon oui, pourquoi pas, puis on va avoir ailleurs, on batifole en fait. Et Francis Masse, il m'a dit, non, batifole, mais attention, regarde,
c'est
possible de faire là, dans ce paysage-là, dans cette contrée magnifique qu'est la bande dessinée. C'est lui, Francis Masse, donc gloire à lui.
Parce que une des questions que je me pose, c'est que vous nous avez présenté 4 livres. Objectivement, moi qui me, comment dire, à vous avoir écouté à plusieurs reprises, je suis pas surpris d'entendre ou de voir des extraits de votre bibliothèque. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une frustration je vais le dire autrement. Est-ce que la BD permet un total épanouissement intellectuel identique à celui qu'on peut imaginer qu'à un auteur, par exemple. Parce qu'un auteur, c'est sérieux. Enfin, on parle de Kafka, on parle de Roussel, c'est du sérieux. Est-ce que pour vous, dans votre esprit ou dans votre réflexion, bah, ce que vous faites en termes de le travail que vous produisez en bande dessinée, ça a la même intensité intellectuelle?
Alors, je pense, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs de bande dessinée. Dans les derniers livres de bande dessinée, je ne sais pas, je citerai par exemple David B., Monsieur Chouette, c'est une œuvre magnifique, c'est une œuvre très profonde. Le dessin est magnifique en plus, vous voyez, c'est-à-dire que mais je ne sais pas, même dans la chanson française on pourrait dire pareil, la chanson française qui est un autre art hybride, on pourrait dire ah oui, bon, si, est-ce qu'il y a la même intensité dans le dernier Goncourt le Mouvigné que dans une chanson de Gainsbourg? C'est pas à moi de répondre, mais je pense qu'en tous les cas, si la chanson n'existait pas, si la bande dessinée n'existait pas, il manquerait quelque chose dans le paysage artistique, ça c'est évident. S'il y avait, ouais, si le monde s'arrêtait à la sculpture, à la peinture et à la littérature, avec un grand L, soi-disant, vous voyez, il y aurait quand même des trous dans la raquette, des gros trous dans la raquette. Mmh. Donc, c'est ça la réponse, c'est qu'un médium nouveau naît, un nouveau moyen d'expression apparaît, on tire le fil et puis on voit. Même aujourd'hui, les jeux vidéo, par exemple, prenez les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui sont passionnants. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont aussi... Comment dire, l'expérience qu'on peut avoir dans un jeu vidéo, dans une bande dessinée, évidemment, ce n'est pas la même que l'expérience de lecture qu'on a quand on se plonge dans un poème de Rimbaud ou de Baudelaire, évidemment. Mais ça se passe ailleurs. Et je pense qu'il y a des Rimbaud de la bande dessinée. Et il y en aura en tous les cas, même s'ils n'ont pas encore émergé, peut-être. Il y en aura, c'est sûr.
Alors, vous nous avez dit que j'ai été cruel en vous limitant à 4 livres. Alors, on va faire un peu comme les couvertures de Charlie Hebdo, les couvertures auxquelles vous n'avez pas eu droit. S'il y avait eu 2 autres livres que vous estimez aussi importants que les 4 que vous avez apportés là, ça aurait été lesquels?
Alors du coup, j'irais piocher dans les littératures du coup scientifiques, parce que là, il n'y a aucun livre scientifique. Oui. Alors, par exemple, je sais pas, je citerai un peu David Elbaz, par exemple. Mm-hmm. Voilà, le secret de la lumière, où il explique, enfin, il revisite le monde. Alors, c'est un scientifique, hein, mais il réexplique le monde à l'aune de l'onde, en fait, de l'onde de la lumière. Et c'est fabuleux, quoi. Il nous emmène, alors pareil, c'est très très bien écrit, c'est très bien mené, et ça ne cède absolument en rien à la vulgarisation scientifique, parce que c'est souvent l'écueil hein, dans les livres scientifiques, mais il nous explique comment, effectivement, la matière est une machine, en fait, à éplucher de la lumière. C'est extraordinaire. Il raconte comment, vous voyez, toute la généalogie de la lumière qui part depuis sa création jusqu'à la fabrication de la matière, à la fabrication des soleils, puis des planètes, puis des roches, puis des géologies sur les planètes, puis des êtres vivants, etc. Et à chaque étape, vous voyez, la lumière change de nature. Donc c'est un livre fabuleux. Voilà, et puis par exemple Charles Dawkins, un autre scientifique, vous voyez, le gène égoïste, moi c'est un livre qui m'a transformé aussi, je l'ai lu il y a longtemps, et ça fait partie de ces auteurs qui vous font voir le monde autrement, qui vous font décaler, qui vous déplacent dans le regard que vous avez sur le monde. Et c'est fait pareil avec une telle exigence, une telle intelligence et une telle sensibilité que après ça, vous avez envie de vivre d'autres expériences similaires. Alors, ça va être dans le champ, bien sûr, là, avec Dawkins, de la génétique, ça peut être de l'astrophysique, mais évidemment, ça va être dans les neurosciences, vous voyez. Il y a Lequin, là, dernièrement, que j'ai lu aussi, sur l'IA, un des papes de l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est des choses qui sont passionnantes à lire, parce que c'est à la fois, évidemment, une manière de voir le monde différemment, mais c'est une manière aussi de se nourrir, de nourrir un peu un terreau... personnel duquel sans doute sortira justement des dialogues et puis des histoires futures.
Eh bien, je vais vous remercier, Marc-Antoine Mathieu, d'être à nouveau venu dans ce studio. C'est toujours un bonheur de vous rencontrer et puis de vous écouter. Finalement, je vous écouterai finalement assez longtemps. Je vous remercie de cette visite. Moi, je recommande la lecture de cet album, donc qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. C'est un album qui se mérite. Mais quand on l'a lu, on a pris un réel plaisir et moi, ça a été mon cas. Et je l'ai dit déjà dans l'émission, moi, je l'ai lu trois fois. Je vous remercie donc de cette visite. Ça va être l'heure à sonner. On va jeter un petit coup d'œil sur l'agenda. Vous signalez la parution du nouveau numéro de la revue Dissonance, avec pour thème l'enfer et ce sous-titre l'enfer est vide, tous les démons sont ici. Et c'est de ce bon vieux Shakespeare. Et puis j'ai eu le bonheur de recevoir un tout petit livre, un recueil intitulé Les nuages te le disent mieux que moi. Il est de Gris Cornac. Ce sont des textes des chansons du groupe écrits par Aurélie Breton, nettoyés pour l'édition, et c'est diablement beau. En prime, cet exergue, il faut que la volonté imagine trop pour réaliser assez. Et c'est de Gaston Bachelard. Avec ça, tout est dit. Demain, jeudi 6 novembre, à 19h, rendez-vous à la librairie Myriagone, à Angers, pour une rencontre avec Laetitia Bianchi, autour de son roman « Bonhomme Pâques » aux éditions Verticales. Le vendredi 7 novembre, à Rive-du-Loir, en Anjou, Pierre Soletti revient présenter son film « Je travaille pas et j'en ai fait mon métier ». Voilà un très bel auteur, impertinent et sensible. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce film. C'est un film intelligent qui réfléchit sur le travail et c'est magistral. Le samedi 8 novembre, l'infatigable Maison Julien Gracq vous propose une journée intense intitulée « Géographie des narrations ». Là aussi, le programme est alléchant. Et le mercredi 12 novembre, eh bien, vous pourrez écouter le lauréat du prix Goncourt 2025, Laurent Mauvignier, qui sera l'invité du prochain Bouillon. Ce se passera à l'Université catholique et ça commencera à 19h. Nul doute que ça va se bousculer. Le mardi 18 novembre à 19h, rencontre avec Fabienne Bichet autour de son livre Moi, Fabienne B, mauvaise fille, à la librairie Contact. Faut-il le rappeler ? La librairie est en grande difficulté, elle n'est toujours pas sortie de l'ornière et il faut la supporter. Au cours de l'émission, vous avez entendu Nerlov qui a chanté Patan et Arnaud Fournier qui a chanté New York Belle-Île. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, mercredi 19 novembre à 17h, avec une rencontre avec Flora Souchy et Pascal Moisset. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis bien évidemment votre magazine Topette, animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant,
in 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.